Yes.
Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Nous allons donc nous préparer à recevoir le message de la parole. Et sans plus tarder, je vous prie donc d'incliner vos têtes dans la prière. Tu es tout pour nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, si tant est que nous ayons quelque chose, tout cela, Seigneur, est le produit de ta grâce envers chacun de nous. Ce matin, dans ton amour infini pour nous, tu nous as attirés à toi. Ce matin, dans ta grâce infinie, Seigneur, tu permets que nous puissions nous retrouver autour de toi à l'occasion de cette grande célébration dominicale. Célébration qui est une opportunité pour nous, Seigneur, d'assumer notre raison d'être, des adorateurs en esprit, en vérité. Célébration qui est donc une occasion pour nous, Seigneur, d'avoir un face-à-face, un cœur à cœur avec toi. Et nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir accueillis favorablement en ta présence, mais aussi d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à l'expression de nos cœurs, aux chants, aux cantiques. Tout cela, ô Dieu, est monté vers toi comme du parfum de bonne odeur. Tout cela a été et demeure une offrande digne de toi. Seigneur, merci. Après ce moment, nous voulons, avec humilité, Seigneur, nous asseoir très humblement et très attentivement à tes pieds, pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour chacun de nous. Merci, Seigneur, d'utiliser ton serviteur, de lui donner tout ce dont il a besoin, les ressources d'en haut, dont il a besoin, Seigneur, l'onction qui vient de toi, le feu de ton esprit, pour qu'il soit simplement un outil entre tes mains, pour l'édification, pour la croissance, Seigneur, de ton peuple. Merci de nous parler et de bénir chacun de nous par ta parole, avant de nous retrouver, Seigneur, autour de cette table dressée pour célébrer, ô Dieu, la Sainte Cène, pour avoir ce moment de communion avec toi au travers de cette institution qui nous vient tout droit de toi et de toi seul. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà donc, comme vous le savez, comme vous le voyez, nous avons un programme très chargé. Nous avons écourté un tout petit peu le moment de louange et d'adoration pour commencer la prédication un peu plus tôt, puisqu'après la prédication, nous allons donc nous retrouver autour de la table du Seigneur pour obéir au commandement qu'il nous a laissé. Mais avant ça, il y a évidemment le message de sa parole. Et ce matin donc, je voudrais parler du parcours du Seigneur et attirer notre attention sur deux moments très importants qui ont marqué, mes amis, la vie du Seigneur, sa venue ici-bas, deux moments importants, deux moments forts qui restent à jamais inscrits dans les annales de l'éternité. Et donc mon message de ce matin est intitulé « De Gabata à Golgotha ». Nous allons bientôt avoir la Sainte Cène. Vous seriez attendu peut-être que je parle de la Sainte Cène. Et c'est dire, mais ce thème de Gabata, ce thème de Golgotha, bref, ce thème qui nous parle de la passion du Christ est un thème qui souvent est exploité en période pascale. Grave erreur, nous ne devrions pas et nous ne devons pas être liés par le calendrier des hommes. Et prêcher la parole à chaque fois que le Seigneur nous inspire un thème. Et gloire à Dieu. De Gabata à Golgotha, nous allons lire dans Jean chapitre 19. À partir du verset 11. Jésus répondit, donc il répond à Pilate. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. À cette époque, l'empereur était Tibère. Et tous ces empereurs romains, à un certain moment de leur histoire, ont eu emporté le titre de César. Ils sont tous devenus des Césars, mais à cette époque, c'était Tibère. Donc, quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « À mort, à mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César !» Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui s'est dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Car moi, 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. En Corinthiens 11, à partir du verset 23, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, toutes les fois que vous observez la Sainte Cène, toutes les fois que vous obéissez à ce commandement, eh bien, la Bible déclare que nous annonçons la mort du Seigneur et cela jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. Nous sommes donc le 1er octobre 2022. Le 2, merci. Vous voyez, c'est la preuve que vous ne dormez pas. Je ne sais pas, c'est la fatigue, moi j'ai écrit. Donc le 2 octobre, c'est donc le premier dimanche du mois, de ce nouveau mois dans lequel nous sommes entrés par la grâce de Dieu. C'est donc notre premier culte, notre première célébration dominicale du mois. Et donc à cette occasion, le Seigneur nous fait la grâce, le Seigneur nous accorde ce privilège, non seulement de nous retrouver dans sa maison, comme c'est le cas tous les dimanches, pour le louer, pour le célébrer, pour nous réjouir en sa présence, mais aussi pour célébrer aujourd'hui la Sainte Cène comme la parole de Dieu nous le recommande. Amen. En ce jour donc, et avec beaucoup de reconnaissance et dans un esprit de louange et d'adoration, nous allons prendre le repas du Seigneur. En ce jour donc, j'aimerais attirer votre attention sur la mort de Jésus-Christ, et ce, à juste titre. Et ici, l'apôtre Paul nous le rappelle, à chaque fois que vous observerez la Sainte Cène, à chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, sachez que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. C'est donc un mémorial. C'est donc une manière que le Seigneur nous laisse afin de pouvoir nous souvenir à tout jamais du prix qu'il a payé pour chacun de nous, du prix qu'il a payé pour le salut de l'humanité, du prix qu'il a payé pour la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Oui, la crucifixion, toutes les souffrances qui ont entouré la crucifixion, ensuite la mort et la résurrection du Christ sont, mes amis, au cœur du message apostolique. Sont au cœur, mes amis, de l'évangile du Christ, cet évangile qui nous est révélé comme étant une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile repose entièrement, totalement, sur, mes amis, ces points fondamentaux que sont la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont donc des thèmes, ce sont des vérités d'une importance capitale. Et c'est sur ces vérités que repose notre foi. Cette foi qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Cette foi qui nous permet d'expérimenter le salut. Eh bien, cette foi repose entièrement, totalement sur la croix de Jésus. Et quand nous parlons de la croix, nous parlons, mes amis, de la crucifixion du Fils de Dieu, mais aussi de sa mort. Et gloire au Seigneur, alléluia. Ce sont donc des thèmes importants sur lesquels repose notre foi. Et puisqu'il en est ainsi, nous ne devrions pas, en tout cas, nous ne devrions pas lier ces thèmes importants à une certaine période de l'année civile, et comme c'est souvent le cas. Vous savez tous que nous avons des trois grandes fêtes qui rythment la vie des chrétiens. Il y a Noël, fête de la Nativité, une occasion pour nous de célébrer la venue sur cette terre du Seigneur. Ensuite, il y a la Pâque pour célébrer sa mort et sa résurrection. Et enfin, il y a la Pentecôte. Et ces trois fêtes sont étalées sur l'année civile à des moments bien précis. Et souvent nous attendons que ces périodes arrivent pour pouvoir parler de ces thèmes importants. Mais sachant que c'est une grave erreur, ne parler de la mort de Jésus qu'à la Pâque, ne parler du Saint-Esprit et de la nécessité du baptême dans le feu, ne parler de cela qu'à la Pentecôte, est une erreur grave. Nous devrions, mes amis, être liés par le calendrier du Seigneur. Nous devrions nous laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas attendre une certaine période spéciale pour pouvoir parler de ces pensées dont nos âmes ont besoin. Ces pensées de nature à irriguer puissamment tout notre être et à nous permettre de demeurer fermes dans notre conviction. Alléluia. Nous devons donc, comme je viens de le dire, être poussés, être conduits, être dirigés par le Seigneur, et non pas dépendre de manière stricte des dates que les hommes ont arrêtées. C'est vrai qu'en ces périodes-là, c'est toujours pertinent, par exemple, de parler de ces thèmes-là. Par exemple, à Noël, durant à la fin de l'année, c'est Noël, c'est la fête de la Nativité, eh bien, on peut parler, c'est vrai, de la venue du Christ. À Pâques, c'est vrai qu'on peut parler de la mort et de la résurrection de Jésus. À la Pentecôte, on peut parler du Saint-Esprit, etc. Mais ne soyons pas liés de manière stricte à ce calendrier-là. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer sa pensée et puis ensuite la proclamer. Ça veut dire qu'on peut parler de la venue du Seigneur même dans un mois comme celui-ci. C'est-à-dire le mois d'octobre. Alléluia. On peut parler de la mort et de la résurrection du Christ au mois d'octobre et ne pas attendre le mois d'avril ou le mois de mai ou de mars, selon l'année, pour pouvoir, mes amis, nous entretenir autour de ces choses si importantes. Gloire à Dieu. Puisque la Sainte Cène commémore la mort du Christ sur la croix, une mort pour nos péchés et à cause de nos péchés, Nous allons donc parler de la mort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons parler de la mort. Voyez-vous, nous l'avons lu. La crucifixion, la mort du Seigneur ont eu lieu à Golgotha, sur ce rocher qui ressemble encore à un crâne. J'ai eu l'occasion d'aller donc de tout près du Golgotha. Oui, c'est là que sa croix a été plantée, c'est là que le Fils de Dieu est mort. Mais avant Golgotha, il y a eu Gabata. Deux moments importants, Gabata et puis Golgotha, alléluia. Gabata, c'est un mot hébreu, mais aussi araméen, puisqu'à cette époque-là on parlait araméen, qui signifie un lieu surélevé, une sorte d'éminence, une sorte de tertre. C'est là, Gabata, que se trouvait le tribunal public, où Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, à la solde de l'empereur et de l'Empire romain, c'est donc en ces lieux-là qu'il rendait ses sentences, qu'il proclamait ses verdicts. Et c'est donc dans ce lieu-là, mes amis, que se déroula, en quelques heures, de manière expéditive, le plus grand procès de l'histoire de l'humanité. Ce fut en effet une dramatique, une tragique, une flagrante parodie de justice. Un procès taillé sur mesure, inique, c'est-à-dire injuste, dont le but poursuivi n'était pas de dire le droit, n'était pas de rendre justice comme il se devait, mais plutôt de condamner le Seigneur, de l'éliminer, de s'en débarrasser une fois pour toutes. C'est ainsi que lorsque nous regardons le parcours que le Seigneur va avoir, ce parcours qu'on appelle la passion du Christ, nous voyons que le Seigneur va subir plusieurs interrogatoires, comme s'il était un criminel, alors qu'il n'a fait que du bien autour de lui. Partout où il allait, eh bien, il ne faisait que du bien aux gens. Il est d'abord amené devant les autorités religieuses juives, devant le souverain sacrificateur, Anne, et puis Caïphe. Voilà, ils vont l'entendre, et puis de nuit, le voilà devant le Sanhédrin, qui était le corps, si vous voulez, gouvernemental juif, composé de 70 membres, des principaux sacrificateurs, des anciens du peuple, etc. Et ce Sanhédrin était présidé par le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur l'a d'abord entendu seul, puis cette même nuit, il a convoqué le Sanhédrin. Ils se sont tous réunis, et là, pour le juger injustement. Et devant le Sanhédrin, nous voyons que Jésus n'a pas dénoncé les irrégularités de son procès. Jésus n'a rien dit pour se défendre. Il va plutôt choisir de se taire. Il va plutôt choisir de souffrir. Il va plutôt choisir de mourir. Car il est venu pour mourir, afin que par sa mort, il nous acquiert le salut dont l'humanité avait et a tant besoin. Gloire à Dieu, alléluia. Il acceptait de mourir, d'être condamné à la mort, car il est venu pour expier nos péchés et sauver notre âme de la perdition éternelle. Ça ne s'est pas arrêté cette nuit-là. Au petit matin, encore devant le Sanhédrin, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vont tenir conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et là, ils vont le lier, ils vont l'amener pour le livrer à Pilate. Ensuite, devant le gouverneur Ponce Pilate, Jésus est là, Pospilate, qui était donc la plus haute autorité romaine, car n'oubliez pas qu'Israël était sous la domination, sous la coupole, sous l'emprise de l'Empire romain. Et puis de nouveau, devant Hérode, qui était gouverneur de la Galilée, puisqu'il était originaire de Nazareth, en Galilée. Et enfin, il revient chez Pilate, cette fois-ci, le verdict tombe, il est condamné à mort. Qu'a-t-il donc fait, mes amis, pour être traité comme un criminel, pour être humilié? Il n'a pas eu droit à un procès équitable. Traité comme un criminel, comme un vulgaire bandit, lui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Tous ceux qui entendaient son message réagissaient en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et ceux qui voyaient ses miracles, ses œuvres, s'écriaient « Il fait tout à merveille ». Oui, partout Jésus passait, partout il allait, il ne faisait que du bien. Et pourtant il va être arrêté, et pourtant il va être condamné injustement, et pourtant il va être humilié et condamné à mort. Après donc Gabatin, condamnation expéditive, procès dramatique, flagrant, après Gabatin, voilà Jésus. Jésus épuisé, Jésus humilié, Jésus qui monte péniblement vers le lieu appelé le crâne, parce que ce lieu, ce rocher, a effectivement la forme d'un crâne, ce qui s'est dit en hébreu, Golgotha. Et là, il est suivi de Simon de Cyrène, Simon qui avait été réquisitionné pour prendre sa croix. Une foule immense s'émasse de part et d'autre du chemin, et les femmes se frappent la poitrine. Tout le monde assiste à cette scène incroyable. Cependant, à l'issue de tous, sans qu'ils s'en doutent, oui, à l'insu de tous, des soldats, des hommes religieux, des autorités religieuses, à l'insu de tous, des gens du peuple, même des puissances des ténèbres, même de l'enfer, l'événement le plus extraordinaire, l'événement le plus marquant des annales de l'univers va se produire avec des conséquences que nous connaissons. Le Fils de Dieu, celui par qui, celui pour qui, celui de qui sont toutes choses, va mourir, crucifié par des créatures faites à son image, à sa ressemblance. Comment comprendre cela? Il meurt, crucifié. Il meurt, car il est venu pour mourir, alléluia. Mes amis, la mort du Seigneur, voilà la vérité qui nous libère, voilà la vérité qui nous sauve. Si quelqu'un vient et cherche à attirer votre attention sur la personne d'un prophète, cherche à attirer votre attention sur la personne d'un chef religieux et vous faire croire qu'il suffit simplement de lire le message de ce prophète, de croire dans le message des prophètes pour être sauvé, eh bien, renvoyez-le au calende grec. C'est la mort de Jésus qui sauve l'humanité. Il est venu pour mourir. Voilà pourquoi il a institué la Sainte Cène, pour que ça soit un mémorial, pour que ce soit une occasion pour nous de commémorer sa mort. Nous sommes sauvés parce qu'il est mort. Nos péchés sont pardonnés parce qu'il est mort. Nous sommes là parce qu'il est mort. Gloire à Dieu. Par sa mort, le Seigneur accomplit ainsi toutes les prophéties que nous trouvons dans la parole. Entre autres, Ésaïe 53. Je voudrais que nous lisions très rapidement Ésaïe 53, à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Cependant, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Oui, par sa mort, le Seigneur donne satisfaction à la justice et à la sainteté de Dieu, et révèle l'amour éternel du Créateur, l'amour éternel du Dieu de la Bible, pour des pécheurs que nous sommes, vous et moi. Écoutez ce que 1 Jean 4, verset 9 dit. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Oh, alléluia. Ensuite, après sa mort, les événements vont aller très vite. La Bible nous dit de midi jusqu'à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et là, Jésus expire sur l'infâme bois. Et là, un cri sort. J'ai déjà eu à parler de ça. Un cri parmi ceux qui ont changé le destin de l'humanité. Tout est accompli. Tout est achevé. Ne cherchez plus à vous confier dans un saint. Ne courez plus après un ange ou un archange. Tout est accompli. À la croix, il a tout accompli. Désormais, tu peux être pardonné pour n'importe quel péché. Car à la croix, il a pris nos péchés. Il a pris notre culpabilité. Il a pris nos souillures, nos impuretés. Oui, sur la croix, il a tout accompli. La Bible de poursuivre. Le voile du temple se déchire. La terre tremble. Les sépulcres ou le tombeau s'ouvrent. Et des corps des saints sont sortis des tombeaux et ont été aperçus à Jérusalem. Mes amis, ça a été un séisme qui a bouleversé non seulement l'univers physique, car la terre a tremblé. Et je suis convaincu que dans le système solaire, quelque chose s'est passé. Et je suis convaincu que dans notre galaxie, la Voie lactée, quelque chose s'est passé. Je suis convaincu que dans le cosmos, quelque chose s'est passé, mais aussi sur le plan spirituel. Alléluia! Les corps des saints ont ressuscité. Il est la vie, il est la résurrection. Que tout notre cœur vibre pour un seul nom. Le nom de celui qui a donné sa vie à Golgotha. Que nous n'ayons d'autre nom dans la bouche que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez ce message. Proclamez ce message. Alors que les gens sont distraits par les noms de tel ou tel autre prophète. Alors que les gens cherchent à ce que le monde qu'on reconnaisse leur prophète comme étant le seul prophète, eh bien il n'y a qu'un seul nom. La Bible déclare. Il y a sous le ciel qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, le nom de Yeshua Messiah. Le nom de Jesus Christos, le nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom. Ayez ce nom dans votre cœur, ayez ce nom dans votre bouche. Soyez frappés d'amnésie, oubliez tout, mais sauf le nom du Christ.
Gloire à Dieu.
Le soir venu, le corps de Jésus est descendu de la croix et déposé dans un tombeau neuf. Une grande pierre est placée à l'entrée du tombeau. Pour l'enfer, pour le monde des ténèbres, pour les ennemis, pour ses adversaires, c'était fini. Les chefs religieux se sont réjouis. Nous nous sommes débarrassés de ces révolutionnaires. Fini pour lui. Fini pour lui. Enfin, nous sommes tranquilles. Nous allons continuer à observer nos traditions telles que nous les avons interprétées à partir de la loi de Moïse. Premier soir, ils se réjouissent. Le lendemain, ils exultent. Mais c'était sans compter avec celui qui s'appelle la vie, celui qui s'appelle la résurrection. Au troisième jour, la pierre n'a pas pu l'empêcher de sortir du tombeau. Les ténèbres n'ont pas pu le retenir. Le Christ, le Seigneur de gloire, le roi de rois, le soleil levant, est sorti vainqueur. Mes amis, par sa mort, pour terminer, le Fils de Dieu a payé le prix de notre rachat. Sa mort a été une mort volontaire. Même sur la croix, il est resté Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il lui fallut un seul mot de sa part pour terrasser tous ses adversaires. Cependant, il ne l'a pas fait, car il avait notre salut en vue. Car il avait en vue notre bonheur éternel. Sa mort a été une mort volontaire, une mort expiatoire, pas accidentelle, une mort rédemptrice, une mort substitutive, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui aurons pu mourir, et ça aurait été tout à fait juste et justice faite devant Dieu. Car le salaire du péché, c'est... Et pourtant, lui a pris notre place. Il est mort. Mais il est aussi ressuscité. Et il se trouve à la droite. Maintenant, à la droite de Dieu intercédant pour nous. Et nous terminons. Pendant que les préposés vont bientôt s'apprêter, nous terminons en lisant tous ensemble Romains 8, versets 33 et 34. Et je voudrais que nous fassions cela en étant debout. Nous nous levons, nous allons lire ensemble avec foi, nous allons lire ensemble avec enthousiasme, nous allons lire ce passage dans un esprit de victoire, car celui qui est mort, celui qui est ressuscité, est aussi présent ce matin parmi nous. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamne? Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors louons-le. Proclamons son nom. Pendant que les préposés vont se retrouver autour. Vous pouvez rester debout. Proclamons son nom, mes amis. Ça bouillonne en moi. Proclamons la victoire du Christ. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Oh, Seigneur de gloire. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre? C'est toi le Christ. C'est toi le ressuscité du troisième jour. C'est toi qui as donné ta vie à la croix pour nous. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi et toi seul qui sauve. Toi et toi seul qui nous fait entrer dans le royaume du Père. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prier. Et puis ensuite, je vous demanderai de vous rasseoir. Et ce n'est qu'après que je demanderai à tous ceux qui prennent le repas du Seigneur, ceux qui sont réconciliés avec le Seigneur, ceux qui marchent en nouveauté de vie, de pouvoir se mettre debout afin qu'ensemble nous puissions prendre ces éléments qui constituent le repas du Seigneur, à savoir le pain, symbole de son corps. Ce corps qui a été brisé à Golgotha pour nous, prendre cette coupe, symbole du sang qu'il a versé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons prier. Seigneur, après avoir entendu le message de ta parole, nous voici maintenant debout devant toi, prêts, Seigneur, à prendre, à célébrer la Sainte Cène, ce repas qui commémore ta mort et ta résurrection. Nous voici debout devant toi, Seigneur, pour te dire merci d'avoir été jusqu'au bout de ta mission. Tu as été missionné par le Père pour venir sur cette terre afin de payer le prix de la réconciliation avec notre Créateur, le prix du pardon, de la rédemption. Oui, tu es venu pour rendre enfin accessible la vie du Dieu vivant. Merci pour tout. Bénis ce repas, ce pain que nous allons prendre, symbole de ton corps, ce corps qui a été brisé, ce corps qui a été cloué sur ce bois infâme de la croix. Mais aussi, bénis cette coupe, symbole du sang que tu as versé. Ce sang qui parle mieux que celui des animaux de l'ancienne alliance. Car dans ton sang, il y a le pardon. Dans ton sang, il y a la vie. Dans ton sang, il y a la guérison. Dans ton sang, il y a la réconciliation et la restauration. Merci de bénir tous ceux qui, ce matin, sont malades dans leur corps, ô Dieu, et qui vont mettre leur foi dans ton œuvre à la croix pour être guéris, merci de leur accorder la guérison. Car ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci d'accomplir ta parole maintenant et d'honorer la foi de quiconque est malade en lui accordant la guérison. Au nom de Jésus. Amen.